Alors, on est en ligne avec Roberto Nieto qui est à Maputo au Mozambique. Alors, salut Roberto, ça va bien?
Oui, salut Patrick.
Ouais,
Très bien.
dis-moi quelles ont été les dernières aventures de la série Nouvelle Mouvance en Afrique?
Les dernières histoires qu'on a ramassées sont au Mozambique. Je vais parler brièvement du Mozambique, un pays qu'on connaît sans doute trop peu. C'est un pays parmi les plus pauvres de la planète. Je ne sais pas où il se situe au rang du développement humain, mais je pense qu'au cours des années 90, il se situait à un certain moment donné au dernier rang du développement humain, selon les Nations Unies. Donc, on parle de vraiment un pays qui va très mal, où les gens ont en moyenne là, autour de entre 100 et 200 dollars par année pour dépenser. C'est un pays qui est marqué par une longue histoire de conflits, de guerres, de catastrophes naturelles. Entre autres, faut mentionner que c'est une ancienne colonie portugaise et que ce pays a acquis son indépendance en 1975. Et à cette époque-là, c'est un parti socialiste, un parti communiste qui a pris le pouvoir. C'est le Frelimo, le Front de libération du Mozambique. Et ça a suivi des lignes de développement socialiste, mais très rapidement, il y a eu une guérilla qui s'est mise sur pied, financée par l'Afrique du Sud, et qui a contribué à détruire une bonne partie des infrastructures déjà en très mauvais état au pays. Guérilla, c'est la RENAMO. Et comme j'ai dit, ça a été financé pendant de nombreuses années par le très puissant voisin sud-africain. Qui voyait ce qui se passait au Mozambique comme un mauvais exemple pour toute la région. Et donc, en 1992, le Frelimo et le RENAMO ont signé un accord de paix qui a mis fin à des années et des années de guerre. Mais le pays était en très mauvais état à cette époque-là, sans compter qu'en 1987, le Mozambique a dû signer des accords avec la Banque mondiale pour redresser son économie. Et évidemment, avec l'effondrement du bloc socialiste, ça a dû amener aussi beaucoup de changements. Alors, ça, c'est un peu l'image du Mozambique. C'est un pays où 70% de la population vit dans les régions rurales, c'est-à-dire que c'est des paysans qui vivent de leur terre. Et c'est ça un des points peut-être les plus intéressants du pays. C'est que, il y a des villes importantes, par exemple la capitale Maputo, il y a une autre ville, Beira, mais quand on sort de ces villes-là, ben on se rend rapidement compte que c'est deux mondes vraiment très, très différents. Les paysans qui vivent sur leur terre, ils sont vraiment à la merci de l'environnement qui les entoure. Ça, c'est une des principales choses qui nous a intéressés.
Et quelle est la situation justement de ces fermiers-là? Est-ce que les fermiers sont principalement propriétaires de leurs terres ou ils doivent se mettre à la solde de grands propriétaires terriens?
Oui, ce qu'il faut expliquer, c'est que là aussi, il y a un genre d'héritage, si on veut, de la révolution là, socialiste. C'est que la terre, partout au Mozambique, appartient au gouvernement. C'est-à-dire, on ne peut pas vraiment privatiser la terre comme ça peut faire au Canada ou ailleurs dans le monde. En 1997, il y a une loi qui a été passée et qui dit tout ce qui est terrain appartient au gouvernement et tout ce qui est bâti dessus peut être loué ou peut être appartenir à la personne, c'est des genres de bail de location qui peuvent être de 25 ans, de 50 ans. Et dans certains cas, quand les paysans vivent sur une petite assez longtemps, ils peuvent demander à être ceux qui exploitent cette terre-là. Donc, c'est une loi qui est considérée dans certains milieux comme étant extrêmement progressiste. Et c'est une des choses qui nous intéressait ici au Mozambique parce que ça fait en sorte qu'il n'y a pas de grosses propriétés terriennes comme ça peut être le cas dans beaucoup de pays de la planète. Là. Beaucoup de pays comme le Guatemala, le Brésil ou en Afrique du Sud, ou même au Canada, où c'est des grosses fermes qui appartiennent à des familles, c'est des grosses terres où on travaille avec des machines qui servent à une production industrielle, souvent avec gros usage d'engrais chimiques ou maintenant de plus en plus d'OGM. Ben, au Mozambique, c'est vraiment des petits fermiers. Et alors, nous, on est allé à Maputo rencontrer un membre de l'UNAC, l'Union nationale des paysans du Mozambique, et il nous a parlé de la problématique là, des paysans du pays. Et en fait, c'est assez intéressant, c'est que, évidemment, le Mozambique est un pays qui a été frappé par des catastrophes naturelles ça a grandement contribué à si on veut, compliquer la vie des paysans, parce que bon, il y a eu des inondations, ça a été suivi de sécheresses, et c'est des paysans qui travaillent les terres avec très peu de moyens, donc ça a beaucoup, si on veut, nuit à leur capacité de produire. Mais disons que maintenant, depuis quelques années, ça va sensiblement mieux. Sensiblement mieux, ça c'est... évidemment, il faut mentionner que bon, le pays est proche, vit une sécheresse assez importante, puis que il y a des zones qui sont très durement affectées maintenant, et il y a beaucoup de gens qui souffrent de faim dans le pays. Mais bon, plus généralement, le problème principal des paysans, c'est qu'ils n'ont pas les outils pour produire, pour si on veut exporter leur production ou pour même l'acheminer vers des plus grands centres urbains ou des marchés potentiels. Et ça, c'est dû en partie à cause du mauvais état des routes, qui fait en sorte que bon les prix de transport deviennent prohibitifs là. Mais aussi il y a une autre réalité qui est très importante, c'est qu'il y a beaucoup d'importations au Mozambique. En fait, le Mozambique est un pays qui importe des quantités importantes de nourriture, et en particulier de la nourriture qui provient de l'Afrique du Sud. Donc quand on voit dans n'importe quel supermarché à Maputo ou un peu partout dans le pays, ce qu'on retrouve, c'est des produits sud-africains, produits à moindre frais que ce que peuvent produire les paysans mozambicains. Et souvent, c'est des produits OGM, parce que là, l'Afrique du Sud produit des OGM. Alors, c'est très difficile pour l'ensemble des fermiers du Mozambique de faire compétition avec un autre marché, quel qu'il soit, parce que tout est produit moins cher à l'étranger, et c'est moins cher d'importer des choses qui viennent peut-être du Portugal ou de l'Afrique du Sud que de le produire ici dans le pays. Il y a très, très, très peu d'industries. C'est assez surprenant de constater là, à quel point il n'y a rien qui est produit au Mozambique. Je veux dire, à part peut-être de l'eau embouteillée. C'est difficile de trouver quoi que ce soit avec fabriqué au Mozambique ou produit au Mozambique. Donc, ça, c'est une problématique qui est assez importante. Et il y a quelques... En fait, l'année dernière, le ministre du développement rural, j'abrège son titre, là, je pense que c'est développement rural et autre chose, il a laissé entendre qu'on pourrait peut-être privatiser certaines terres. Ça faciliterait le fait que des grosses compagnies puissent s'installer sur certaines terres et exploiter ces terres-là, et ça soulevait un tollé. Rapidement, il y a des études, par exemple, d'Oxfam qui ont été faites, et qui disaient si on ouvrait la voie à une privatisation de la terre, la situation deviendrait beaucoup plus grave. Et en fait, c'est assez intéressant, parce que l'UNAC, les noms des paysans, eux autres, ils ont parlé de ça. C'est sûr que, qu'est-ce qu'on fait dans un pays où si on veut, les paysans ne peuvent pas produire parce qu'ils n'ont pas d'outils. Et eux, ils ne peuvent pas aller chercher du crédit pour avoir... ils peuvent pas aller chercher du crédit parce qu'ils ne sont pas propriétaires de la terre. Et donc, ils sont là et puis ils peuvent juste travailler leur terre avec, avec des pioches et les outils qu'ils ont. Mais ils peuvent pas aller... Ils ont aucun titre de terre. Alors, bon, ça, c'est une des problématiques centrales, mais Heureusement, le gouvernement mozambicain n'est jamais allé de l'avant avec une privatisation. Et dans des organisations comme l'UNA qui sont en train de chercher des moyens de donner un genre de pouvoir financier aux paysans pour qu'ils puissent, eux, développer leurs propres terres sans pour autant nécessairement avoir des titres. Mais ils sont en train de se négocier là, un genre de d'entente pour que le gouvernement puisse être garant des terres que les paysans possèdent. Alors ça, c'est un peu la situation générale. Et ce qui est aussi très important, c'est qu'il y a beaucoup de dumping qui est fait. Comme par exemple, les États-Unis donnent de l'aide alimentaire gratuitement au Mozambique. Et donc, ça détruit toute la production de blé au pays parce que, évidemment, si quelque chose est donné gratuitement, ben les paysans ne peuvent absolument pas faire compétition avec cette aide humanitaire-là. Mmh.
Et maintenant, dans un autre ordre d'idées, on a entendu brièvement ici parler de la visite de Lula, le président du Brésil, au Mozambique, mais il y a une tournée africaine, en fait. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la visite de Lula en Afrique?
Lula était dans une visite dans 5 pays de l'Afrique australe tout au cours de la dernière semaine. En fait, il est allé dans les îles de São Tomé et Principe, il est allé après ça en Angola, il est allé au Mozambique, et puis il est parti d'ici hier pour aller en Namibie et puis en Afrique du Sud. Alors, nous, on s'est intéressé à sa visite ici au Mozambique. Ben, c'est un événement qu'on considérait assez important. Moins d'un an après avoir pris le pouvoir, le président syndicaliste du Brésil arrive dans un des plus beaux pays du monde. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'était surtout une visite. il y avait 160 hommes d'affaires qui venaient avec Lula. Ça ressemble à des visites d'équipe Canada, là, avec Jean Chrétien et compagnie qui partaient un peu partout dans le monde pour améliorer, pour tenter de créer plus de liens économiques avec d'autres pays. Maintenant, quand on parle du Mozambique, on parle même pas d'une économie émergente, là. On parle d'un pays qui est complètement en terre. Donc, il faut quand même relativiser là, le potentiel, si on veut, de économique de tous ces pays-là. C'est pas comme quand l'équipe Canada s'en va en Chine, qui est un pays qui a un potentiel immense. Il y avait un côté d'échange sud-sud entre pays en développement et pays en développement qui est quand même assez différent de ce qu'on peut faire quand on essaie de faire des échanges nord-sud où, au point de départ, tout est extrêmement inégal. Mm-hmm. La visite de Lula m'a beaucoup intéressé pour ça parce que, entre autres, il est venu donner des conseils, si on veut, au président mozambicain. Il est venu beaucoup parler de entre autres, son programme Faim Zéro, comment il lutte contre la faim dans son pays. Il est venu parler de tout le programme qu'il a mis sur pied au Brésil depuis le début d'année et comment il entend continuer les politiques sociales du Brésil et surtout comment il entend, j'utilise un anglicisme, empower, donc donner du pouvoir à la population brésilienne pour qu'elle ait plus de choses à dire sur sa propre destinée. C'est intéressant parce que, le Mozambique, c'est un pays qui a quand même vécu sous le socialisme, où il y a tout un héritage, si on veut, de l'État qui prend en charge tout, et c'est un peu encore comme ça. Lula est venu prôner quelque chose qui est loin d'un idéal marxiste-léniniste, mais plutôt, on pourrait dire presque anarchiste, mais en tout cas, c'est vraiment la prise en main de la population. Et une des choses qui était, à mon avis, extrêmement intéressante, c'est que Lula est venu ouvrir une usine, est venu parler, en fait, d'ouvrir, d'ici le mois de janvier, une usine pour produire des antirétroviraux. C'est les médicaments qui font partie là, du cocktail pour lutter contre le sida. Mm-hmm. Et ça, c'est un transfert de technologie assez important parce que un pays comme le Mozambique ne peut pas avoir accès à ces médicaments-là très coûteux qui sont produits par les grosses compagnies pharmaceutiques étrangères Et bon, on sait que les grosses compagnies pharmaceutiques étrangères disent posséder des brevets et que, bon, en tout cas, il y a toutes sortes de complications là-dessus. Mais là, Lula arrive et il dit, on va donner la capacité à ce pays-là de soigner sa propre population, de produire ces médicaments-là et même d'en exporter. Au niveau du développement international, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'initiatives du genre, et je pense que c'est une première, et c'est une première qui mérite d'être soulignée, parce que vraiment, ça va changer la map du pays. Le Mozambique est un pays qui a beaucoup de cas de sida, et qui, je veux dire, en ce moment, il faudrait, je ne sais pas combien de milliers, de dizaines de milliers de médicaments pour répondre à la demande, mais ils sont à peine capables de produire, de donner à des centaines de patients. Alors, cette initiative-là de la part de Lula, malheureusement, n'a été soulignée dans à peu près aucun journal ou radio étrangère, peut-être à part quelques radios qui s'intéressent particulièrement à l'Afrique. Ce qui m'a intéressé, c'est que l'autre jour, je suis tombé sur la page de Radio-Canada et puis je retrouve en manchette la nouvelle mentionnant que Lula se préparait à signer des accords avec le FMI. Une information qui est un peu déformée, qui a été déformée par des journalistes avec lesquels on se retrouvait ici. Il y avait une meute de journalistes brésiliens qui ont complètement passé sous silence beaucoup de choses que Lula faisait dans sa tournée africaine et qui ont utilisé toutes sortes de prétextes pour salir autant que possible l'image de Lula et amener le FMI au-devant des préoccupations ou en tout cas des manchettes médiatiques brésiliennes. Et c'est comme ça qu'on a complètement passé sous silence une initiative qui était, à mon avis, extrêmement intéressante de la part du président brésilien. Et par ailleurs, toute la visite en Afrique qui est extrêmement importante parce que c'est peut-être un début d'échange entre quand même un pays qui possède beaucoup de technologies, le Brésil, et d'autres pays du Sud qui ne possèdent pas de technologie. Mais tout ça, ça n'a reçu vraiment aucune attention. Et c'est vraiment là une orchestration de la part de, à mon avis, plusieurs journalistes de droite au Brésil et une nouvelle reprise sans trop de discernement par des médias comme, par exemple, Radio-Canada, qui encore une fois dit, Lula serait sur le point de signer des accords avec le FMI, quelque chose qui est d'une évidence manifeste, hein, parce que le Brésil est en discussion avec le FMI depuis des mois et des mois. C'est peut-être une nouvelle qui mérite quelque attention, mais à mon avis, pas l'attention qu'on lui a donnée, et surtout pas de passer par-dessus d'autres événements qui, à mon avis, sont plus importants.
Puis ce qui est évident, c'est que de ressasser cette nouvelle-là, des contacts entre Lula et le FMI, ça abîme l'image de Lula et j'imagine que c'est ses adversaires qui en profitent le plus. Alors, Roberto, ça va être tout le temps qu'on avait pour l'entrevue. J'aimerais savoir, juste avant qu'on se laisse, quelles sont les prochaines étapes de votre voyage au Mozambique, en Afrique?
Maintenant, on va continuer lentement vers le nord du Mozambique. On va aller rentrer dans des régions vraiment beaucoup plus pauvres que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et puis après ça, on va aller au Zimbabwe, voir la situation là-bas. Le Zimbabwe est un pays qui vit une crise politique, sociale assez importante. Alors ça va être la suite de notre voyage.
OK. Écoute, Roberto, je te remercie encore une fois. Je te souhaite une bonne continuation pour la série Nouvelle Mouvance. Je rappelle que la série Nouvelle Mouvance est rendue possible grâce au concours de l'Agence canadienne de développement international. Et Roberto, on se reparle plus tard.
OK.